un certain nombre de rapports et des flèches de toutes les couleurs. Or, il était proche la Pâque des Juifs. Et beaucoup montèrent vers Jérusalem. Montés à Jérusalem, vous voyez, ce qui était la montée à Jérusalem, on revient ici. Beaucoup montaient à Jérusalem. Avant la Pâque. Donc c'est la fête de pèlerinage de la Pâque, dont nous avons déjà parlé, qui vient d'ici. Première grande fête de l'année, Pâque, Shavuot, deuxième grande fête, c'est-à-dire la Pentecôte, troisième grande fête, la fête des Tentes, et puis Hanouka. Vous avez là les grandes fêtes, mais la Hanouka n'est pas une fête de pèlerinage, c'est une fête qui se fait normalement à la maison. Les trois autres sont faits au pèlerinage du moment à Jérusalem, du pays. Afin qu'ils se purifient rituellement eux-mêmes. Donc, on va célébrer la Pâque, et avant de célébrer la Pâque, on se purifie. Le signe de la purification est donné par les azimes. On enlève, on fait la veille de la Pâque, on fait ce qu'on appelle la recherche du levain. Tout ce qui est fermenté doit quitter la maison. Mais c'est évidemment un rite qui symbolise une réalité profonde. Il faut se purifier pour pouvoir célébrer la Pâque. C'est-à-dire se mettre dans un état de pureté rituelle, autrement dit se mettre en présence de Dieu. Afin qu'ils se purifient rituellement, le terme est utilisé dans ce sens-là, eux-mêmes. Ils cherchaient donc Jésus. Comme il était venu à la fête des Tentes, il était là à la fête de la dédicace, ils cherchaient donc Jésus. Et ils disaient les uns avec les autres, se trouvant debout dans le temple, que vous ensemble. Voilà comment on trouve le temple. Au début, tous les deux premières colonnes se passent dans le temple, voilà qu'à la fin, là, l'avant-dernière colonne, on retrouve le temps. Que vous en sommes? Ne viendrait-il pas vers la fête? La même question se repose. Vers quelle fête allons-nous? Or, il se trouvait avoir donné les grands prêtres et les pharisiens un commandement. Afin que si éventuellement quelqu'un connaissait où il est, il le donne à entendre de sorte qu'il l'appréhende. Nous avons vu que les gardes envoyés par les grands prêtres n'étaient pas parvenus à l'appréhender parce que son heure n'était pas encore venue. Seulement ici, il s'est passé quelque chose entre les deux. C'est la déclaration du grand prêtre. Et le grand prêtre, c'est vraiment celui qui a autorité dans le peuple d'Israël. Et son autorité est valable et efficace en quelque sorte. Et on dirait que c'est le dit du grand prêtre, en tout cas pour Jean, tout se passe comme ça, comme si le dit de la sentence, le verdict du grand prêtre, fonctionne comme une sorte d'avènement de l'heure. Ce n'est pas encore dit comme ça. On dit simplement, ils veulent l'appréhender, l'arrêter, comme nous dirions. Jésus donc, avant 6 jours de la Pâque, vint vers Bethanie. Semaine qui précède la Pâque, qui était une semaine où on arrivait à Jérusalem pour faire la purification. Il vient vers Bethanie, donc il se déplace d'Ephraïm et il vient vers Bethanie. Là où était Lazare. Donc le texte fait la connexion avec Lazare qui était là plus loin. Il avait éveillé les morts, Jésus. Ils lui firent donc un dîner, là. Et Marthe servait. Or, Lazare était un seul d'entre eux qui était à table avec lui. Et ceci est un peu différent des textes des synoptiques. Synoptiques, vous avez un repas, mais pas exactement le même. Nous allons voir tout à l'heure. Mariam donc, la sœur de Lazare qui revient, Mariam donc, ayant pris une livre de parfum de nard authentique de grand prix, enduisit les pieds de Jésus et essuya de ses cheveux ses pieds. Or,
maison,
qu'est-ce que c'est que la maison, hein, fut remplie de la senteur du parfum. Les pères de l'Église comprennent toujours la maison comme l'Église. L'Église fut remplie de la senteur du parfum, et on va vous montrer comment. Or, il dit Judas Iscariote, un seul de ses disciples, qui allait le livrer, on explique Iscariote. En raison de quoi ce parfum ne fut-il pas mis en vente 300 deniers. Et donné à des pauvres. Donc c'est Jésus ou les pauvres. Oh, il dit ceci, non parce qu'au sujet des pauvres, il se souciait, mais parce que voleur, il était, ah voilà le voleur. Les voleurs et les brigands. Voleurs arrivent. Parce que voleur, il était, et ayant la caisse, ce qui était jeté, il le portait. Et dis donc, Jésus, laisse-la, laisse la femme, laisse-la, afin que vers le jour de mon ensevelissement, elle le garde, ce parfum. Ce parfum est réservé pour le jour de mon ensevelissement. Donc Jésus parle non seulement déjà de sa mort, mais de son ensevelissement. Bien, ce parfum qu'elle répandre, elle est en train de répondre, il faut la lui laisser répondre, parce qu'elle est déjà en train de m'ensevelir, de m'embaumer. Je suis déjà comme un mort, par exemple. Oui, puisqu'on a résolu de me tuer, je suis vraiment un mort en sursis. Hein. Afin que vers le jour de mon ensevelissement, elle le garde, car les pauvres, en tout temps, vous les avez avec vous-même. Or moi, vous ne m'avez pas en tout temps. Je vais vous lire le même passage dans l'évangile de Marc. Et vous verrez tout de suite les variantes. Comme Jésus se trouvait à Béthanie. Donc je suis dans un schéma au chapitre 14e, verset 3 et 8. Comme Jésus se trouvait dans
Matthieu.
Chapitre 26, verset 6, chez Matthieu. Comme Jésus se trouvait à Béthanie chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux, elle le versa sur sa tête. C'est comme Marc, tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés. Mais pas certains, des gens, mais des disciples indignés. À quoi bon ce gaspillage, dirent-ils. Cela pouvait être vendu bien cher. Et donner des pauvres. Tiens, il n'a pas retenu. 300 deniers. Pourtant, c'est un homme d'argent, hein, Matthieu Lévy. Hein.
Je trouve que ce n'est pas suffisant.
Bon, peut-être bien, oui. On lui demandera quand on verra. Jésus s'en aperçut et lui dit, il leur dit, pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est vraiment une bonne œuvre. Vous pouvez le faire. Une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir.
Oui, parce que Rabbi garde au tombeau, ça va possible.
Bien sûr. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamée cette bonne nouvelle dans le monde entier, on dira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Et c'est Luc. Luc, il ne dit pas la chose. Regardez ce qu'il nous dit. Ah non, vous ne le trouvez pas à ce moment-là. Ça se trouve, mais c'est ailleurs. Au chapitre 22e, la Passion, vous trouvez seulement le complot contre Jésus et Judas. Cependant, la fête des Azimes appelée à Pâques approchait, et ça explique quand même un petit peu les gens, les grands prêtres et les scribes, cherchaient le moyen de le faire disparaître car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des douze. Il s'en alla conférer avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur le moyen de leur livrer. Ceux-ci s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il acquiesça et il cherchait une occasion favorable pour le livrer à l'insu de l'armée. Et puis c'est tout. Mais au chapitre 7e, Luc nous raconte l'histoire dans un autre contexte et à un tout autre moment de la vie de Jésus. Et là, on voit bien que c'est Luc qui l'a déplacé avec une intention. C'est parce que, pour Luc, la femme, est une prostituée de la ville, qui devient ici une prostituée de la ville, cette femme représente en fait le monde païen. Donc c'est au chapitre 7 du même évangile de Luc, pour verset 35 à 51 du même évangile de Luc. Un pharisien l'invita à sa table. Il entra chez le pharisien. Lazare, Simon le lépreux, un pharisien. Vous voyez comment la même tradition va prendre des colorations différentes. Et il prit place. Serait une femme, une pécheresse de la ville, donc ce n'est plus ni Mariam, ni une femme, ayant appris qu'il était à table chez le pharisien, et de ses larmes, ici le fils, ils aiment les essuyer avec ses cheveux, les couvrir de baisers et les éloigner de parfum. C'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus va partir. Et donc, les pieds, c'est en quelque sorte sanctifier sa démarche. Et chez Saint Jean, ça va dire la même chose, sa démarche vers la passion, vers la mort et vers l'heure de sa gloire. Vous allez voir. Se plaçant en arrière, à ses pieds, fut mis à lui arroser les pieds de ses larmes, il les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien, toujours comme ça qu'on l'appelle, qu'il avait invité, se dit dans lui-même, si cette femme est d'être en fait, et je dois cette femme, qui est cette femme qui le touche? Car être touché par une prostituée, c'est encourir une impureté. Et ce qu'elle est, pécheresse. Prophète, quoi, hein? Je ne sais pas. Mais Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon. Ah, encore un Simon. Je ne sais pas Simon le lépreux, c'est Simon le pharisien. J'ai quelque chose à te dire. Dis, maître, répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi s'acquitter, il fit grâce à tous les deux. Lequel des deux l'en aimera le plus? Simon répondit. Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. C'est celui qui l'a bien jugé. C'est celui qui a la conscience de plus d'amour, qui aussi découvre le plus profondément le pardon. Et se tournant vers la femme, tu vois cette femme qui l'a séduit. C'est celui qui l'a pris, que Simon a pris pour une putain, eh bien, elle devient un exemple pour lui dans la bouche de Jésus. Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Les gestes qu'elle fait avec ses amants. Tu ne m'as pas donné le baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baiser. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. Et oui, il attire l'attention sur mes pieds.
J'espère que les pieds ne sont pas pris au sens féminin.
Non. Dans le Nouveau Testament, ça ne se prend pas plus au sens féminin. Se couvrir, le terme, c'est se couvrir. Tandis qu'ici, vous voyez, l'attention sur les pieds. Elle est là. Elle a découvert le sens de ma démarche. C'est chez Saint-Luc, c'est vraiment très important. Le faire route est tout à fait constant. Elle a découvert le sens de la démarche. Car pour Luc, comme pour Jean, Jésus va à Jérusalem pour s'unir au Père, pour entrer dans l'intimité du Père. Donc c'est un peu la même perspective d'aller vers la gloire, Jésus. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés lui sont remis, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on montre plus d'amour, pardon, celui à qui on remet peu, montre plus d'amour. Donc, c'est la conscience du pardon qui provoque l'amour. C'est pas parce que j'aime que j'obtiens mon pardon, mais c'est parce que j'ai vraiment conscience d'être pardonné que j'aime. C'est parce que j'ai découvert la profondeur de l'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont remis, ceux qui étaient à table avec lui se viennent à dire en eux-mêmes, quel est cet homme qui va jusqu'à remettre les péchés. Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous voyez que nous ne sommes pas chez Saint-Luc. Il garde des traits du même texte, mais il l'utilise à une autre fin.
Et l'objection ici est tout autre. Ce n'est pas le prix du parfum, c'est de tourner autour de personne.
Tout à fait. Ici, c'est véritablement le pardon qui est mis en évidence. Tandis que ici, c'est le parfum. Attention à Jésus ou attention aux pauvres. Vous vous rendez bien compte que c'est un problème qui a existé dans l'Église primitive comme il existe aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent pour faire de beaux calices? Non. Pour recevoir le Saint-Sang de Jésus, ou bien faut-il donner l'argent aux pauvres? Qui est un grand trésor dans les églises, ou bien ce trésor a-t-il été distribué au fond. Vous vous rendez bien compte que ce sont des questions de ce type-là qui agitaient aussi les gens de la communauté. Mais et vous voyez aussi ce qui est présent, qui est le vrai pauvre. Mais que ce soit chez Marc, chez Matthieu, chez Luc c'est différent, bien sûr, c'est le pardon qui vient du temps, ou chez Jean, on voit bien ce. Il y a un discernement à faire du véritable pauvre. Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Deutéronome, chapitre 15. Nous retrouvons. Cette fois-ci, c'est le passage sur les pauvres, au chapitre 15e du Deutéronome. Voilà. C'est à propos de l'année sabbatique. Pendant l'année sabbatique, tu dois libérer tout le monde, ton frère, etc. Tous ceux qui travaillent chez toi, tu dois libérer tout le monde. Se trouve-t-il chez toi, chapitre 15, donc Deutéronome 15, verset 7, se trouve-t-il chez toi un pauvre, d'entre tes frères, dans l'une des villes de ton pays que le Seigneur, ton Dieu, t'a donné? Tu n'endurciras pas ton cœur. Il ne fermera ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras ce qui lui manque. Ne va pas tenir en ton cœur ces mauvais propos. Voici bientôt la septième année, l'année de la remise. Fermez alors ton visage à ton frère pauvre et rien lui manque. Moi, je dois me serrer la ceinture parce que l'année prochaine, je ne peux rien semer. Non. Donne l'argent. Et puis, on nous dit un tout petit peu après, au verset 11, un tout petit peu après. Alors, verset 11. Certes, les pauvres ne disparaîtront point de ce pays. Aussi je te donne ce commandement, tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre dans ton pays. Vous voyez, on est passé de pauvre au terme d'humilié. Donc il faut donner aux pauvres, il faudrait que les pauvres disparaissent du pays, puisqu'il faut essayer vraiment de les ouvrir à eux et de les libérer. Mais, certes, les pauvres ne disparaîtront point de ce pays. Aussi, je te donne ce commandement, tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre. Qu'est-ce que la femme discerne ici, d'après le texte, d'après ce que dit Jésus? Elle discerne le pauvre qui s'en va vers la mort. qui s'en va. Pourquoi est-ce que je dis qui s'en va? À cause des pieds. Laisse-la afin que vers le jour de mon ensevelissement elle le garde, car les pauvres, en tout temps, vous les avez avec vous-même, en moi vous ne m'avez pas. Vous devez faire une attention particulière à celui qui s'en va vers la mort, parce que sa mort est chargée d'un sens tout à fait particulier. Qu'est-ce qu'il a chargé de ce sens particulier? Caïphe. Il faut mieux qu'un homme meure pour le peuple, et que le peuple ne périsse pas de temps. Et ton prophète, il étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il y a une œuvre de rédemption qui est en vous. Et cette femme le sait. Et vous, vous prenez les pauvres dans un sens anonyme. Et elle connut donc la foule nombreuse d'entre les Juifs qu'il était là. Et il vint. Non en raison de Jésus seulement, très curieux, mais afin aussi qu'il voit Lazare. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui a été de l'autre côté? La mort après la mort, la vie après la mort. Vous savez, le livre de Mamousse. On voudrait bien savoir quelle expérience on a quand on est de l'autre côté. Vous savez que toutes ces personnes qui ont été pas tout à fait de notre côté, mais à peu près, qui disent toujours oui. Qu'elles ont vu une grande lumière. Oui. Mmh.
Racontant notre nom.
Oui. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là. C'est qu'on a une expérience, l'expérience limite, qui semble mettre la personne devant quelque chose qui le dépasse. Donc il vint, non en raison de Jésus seulement, mais afin aussi qu'il voit Lazare, qu'il avait éveillé des morts. Hein, ils délibérèrent les grands prêtres, hein, afin que Lazare aussi il le tue. Pas comme ça, toutes les questions sont réglées. Mais écoutez, c'est la manière dont nous traitons hein, la question. Nous n'aimons pas être inquiétés à leur entrée. Afin que Lazare aussi il le tue. Mais Lazare, c'est le problème de la mort. Parce que beaucoup des Juifs, en raison de lui, partaient et croyaient vers Jésus. Et voilà qu'il utilise le terme « partir » comme « quitter la synagogue ». Quitter la synagogue et croyaient vers Jésus. Nous voilà donc à la fin de notre troisième, à la fin de notre avant-dernière colonne, disons comme ça, qui se passe à Béthanie, et qui est tout entière à la lumière de la résurrection et de la mort. Quel est le sens de la mort pour la communauté? La communauté est une communauté croyante, une communauté de Parisiens, Parisiens devenus chrétiens, bien sûr. Ils croient à la résurrection, mais ils ont comme un plus à croire. Et ce plus, c'est de croire que Jésus est le chemin de la vie, au-delà de la mort. Vous voyez que, en approchant de Béthanie, Jésus confesse Marthe et Marie et leur donne de passer à la véritable découverte, est-ce qu'il faut appeler ça adoration, oui, découverte vraiment, de qui il est, le Christ, le Fils de Dieu, la résurrection qui est la vie. Et cette résurrection, elle est présente dans la communauté. Avoir un ressuscité présent dans la communauté, ça veut dire qu'on a vraiment dans notre communauté le signe qu'elle est vivante. Nous avons deux femmes, Marthe et Marie, et nous avons Lazare. Deux témoins de la résurrection, témoins prophétiques de la résurrection, et un témoin expérientiel, si vous voulez, qui a fait vraiment l'expérience de la résurrection après. Donc nous savons ce que c'est, ce que signifie en quelque sorte la résurrection. C'est vraiment avoir la vie de Dieu parmi nous. Mais il faut maintenant déterminer le sens profond de la mort. Le sens de la mort se juge, se cadre à partir de la mort de Jésus. Non pas seulement à partir de la mort de Jésus, ce n'est pas Jésus tout seul qui détermine ce qu'est la mort, c'est même le grand prêtre. Le grand prêtre détermine que la mort de Jésus est une mort rédemptrice, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu. Donc voilà ce que nous avons juste ici. J'aurais bien envie de m'arrêter là dans le texte et de reprendre l'un ou l'autre, oui, pour que nous puissions voir la fin du chapitre 12 demain. Sinon, maintenant, ce serait un peu trop. Et je voudrais prendre quelque chose qui me paraît intéressant. Vous savez, un livre qui a été fait par Michel Gourgues. Michel Gourgues est un exégète qui travaille très bien. Qui a fait une thèse sur la manière dont le psaume 110 est utilisé dans les textes du Nouveau Testament, et notamment dans les Évangiles. Et il y a un livre qui s'appelle « Pour que vous croyiez » et qu'il intitule en titre second Piste d'exploration de l'évangile de saint Jean. Ce sont des textes qu'il regarde d'un peu plus près, et il ouvre, c'est un instrument de travail, ce n'est pas un commentaire, et il ouvre des perspectives dans ce texte. Et je voudrais bien vous donner un passage de ce texte. C'est un double passage. C'est à partir du thème de la lumière et des ténèbres, c'est-à-dire de la guérison de l'aveugle-né. Et il nous dit ceci, lorsqu'il parle de lumière du monde des fils de l'homme. L'ouverture au signe, que le prologue, c'est la vie qui vient de Dieu, c'est la création. La résurrection et la vie, c'est le passage à travers la mort. Or la mort, mais regardez comme la suite du péché. C'est parce que j'ai péché que la mort m'est pénible, que la mort devient une souffrance. Sinon, la mort qui existerait bien sûr, mais ne serait pas affectée de ce coefficient de souffrance. Elle serait un simple passage. Et donc, la mort ou la guérison, la résurrection ou la guérison sont vues comme un passage au-delà de la souffrance. Donc c'est la rédemption, c'est pas la création. Donc, nous sommes dans la remontée vers le Père. Celui-ci vient d'accomplir la guérison, se présente comme la lumière du monde. Cette façon de caractériser sa mission est évidemment à mettre en relation avec le geste à travers lequel Jésus se révèle, à savoir la guérison d'un aveugle privé de la lumière depuis sa naissance. Il en va de même au chapitre 11, où avant de ramener Lazare à la vie, Jésus se présente comme la résurrection et la vie. Et c'est important cela, dans l'évangile de Jean, parce que Jésus, je dirais, librement dit ce qu'il va faire. C'est comme Dieu. Il dit ce qu'il fait et il fait signe. Le signe constitue la proclamation et comme la confirmation événementielle, donc dans l'événement, du mystère, précédemment dévoilé par la parole. Donc ça signifie la liberté et la puissance de Jésus. Faut-il voir dans l'expression lumière du monde une référence à la fête des temples? Et je vous ai dit que à la fête des temples, on illuminait les parages. On lui dit qu'il y a probablement une allusion. Par contre, le titre Fils de l'homme, sur lequel porte la confession de foi de la Rose Guéry, semblerait moins en situation à première vue. Celui de Fils de Dieu, attesté au verset 35 par certains manuscrits, pas par tous, conviendrait mieux. La foi et les signes devant précisément conduire à la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu. Ce que fait d'ailleurs Marie. Il reste cependant que Fils de l'homme est mieux attesté. et que la substitution de ce titre à celui de fils de Dieu est difficile à imaginer. Dès lors, comment faut-il le comprendre dans le contexte? Beaucoup d'explications ont été proposées. L'une des plus répandues consiste à mettre le titre fils de l'homme en relation avec l'idée du jugement exprimée au verset 39. Cette interprétation s'appuie sur le fait qu'en d'autres passages, la mention du jugement se trouve également liée à celle de fils de l'homme. Selon d'autres, ce titre ici désignerait d'abord Jésus dans sa fonction de révélation. En plus de l'expression lumière du monde, on fait valoir en ce sens la réponse de Jésus, tu l'as vu, c'est celui qui te parle, une révélation profonde. Or, insiste-t-on, les verbes voir et parler sont des verbes de révélation. Sans nécessairement exclure ce point de vue, on peut se demander s'il rend entièrement compte des données contenues dans le chapitre 9. Nous avons vu que le péché des pharisiens consistait dans la non-reconnaissance de Jésus en homme. Et au chapitre précédent, il était précisé que ce péché consiste plus exactement à ne pas croire en l'origine céleste de Jésus. Et il revient au « je suis » et il me dit ceci pour terminer. En proclamant sa foi au Fils de l'homme, l'aveugle reconnaît en Jésus la lumière qui était auprès de Dieu et qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et c'est en fonction de leur attitude à l'égard de cette lumière venue d'en haut que les hommes sont jugés, comme l'indique l'entretien avec Nicodème. Suit évidemment une question. Et que Jésus insiste beaucoup sur cette reconnaissance, sur cette foi. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que la résurrection, notre résurrection, réclame la foi? Est-ce que pour ressusciter, il faut croire en Jésus? À ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a ici une méprise à lever, me semble-t-il. Et nous considérons toujours, nous, la résurrection comme un après. Or, nous voyons bien que dans l'évangile de Jean, mais dans tous les évangiles, il en est un peu comme cela, et surtout dans saint Paul, il considère la résurrection comme une réalité présente. Pour vivre déjà la résurrection aujourd'hui, il faut croire en Jésus. Il est celui qui nous introduit vraiment dans le sein du Père. Il est celui qui nous fait vraiment fils de Dieu. Et vivre la résurrection, c'est vraiment croire que je suis fils de Dieu. Croire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai mis croire. Ici. Je crois que c'est vraiment important de mettre ça ici. Croire en l'envoyé du Père, c'est témoigner. Et témoigner, c'est vivre la résurrection. Et chez saint Jean, c'est précisément ce qui apparaît. Pourquoi l'aveugle au chapitre 9, verset 9, dit-il « Je suis ». Pourquoi dit-il « La parole de Jésus » qui a dit « Je suis » au chapitre 8, verset 24, 28 et 58. Notre au-delà, notre après-mort, nous le laissons à Dieu. Et c'est peut-être cela qui est la joie du chrétien. De savoir qu'il est vraiment ressuscité. Puisque vous êtes ressuscité, dit saint Paul, Colossiens 3, verset 1 à 3, regardez les choses d'en haut. Là, puisque vous êtes ressuscité. Alors, pour cette résurrection-là, pour recevoir la vie de résurrection telle qu'elle nous est donnée dans l'Eucharistie, il faut croire. Croire en Jésus, croire qu'il est le Fils de Dieu, qui est croire qu'il est l'envoyé du Père, croire que le Fils de Dieu nous fait Fils de Dieu.
Où est-ce qu'il dit la première
chose? C'est moi, hein? Probablement dans ton édition, tu vois, c'est moi. Chapitre 9, verset 9. Hein, Tura, c'est moi. Mais c'est Ego Aimi. C'est exactement comme je suis quand on dit je suis. Ego Aimi. Hein, il dit quoi, c'est moi,
c'est
bien moi. C'est moi. C'est Ego Aimi. Il est un témoin de Jésus ressuscité. Lazare est le témoin de Jésus ressuscité parmi nous. Lazare est l'image du croyant, de tout croyant que nous sommes. Et les deux femmes qui sont le milieu ecclésial dans lequel nous vivons, dans l'Église primitive, enfin dans un certain nombre de pères d'Église, dont Jérôme, et il voit dans les deux femmes, Marthe et Marie, à cause... Parce que Marie est plutôt un nom hébreu et Marthe plutôt un nom grec, il voit la communauté, les chrétiens qui sont venus du judaïsme et les chrétiens qui sont venus de la communauté païenne. Hein,
est-ce qu'il a les deux témoins pour attester
oui. Lazare oui, ah, ils sont les deux témoins pour attester Lazare, mais en même temps c'est la communauté qui atteste de la présence du ressuscité parmi nous, en tout Lazare que nous sommes. Nous sommes toujours des morts ressuscités. Alors, il se pose aussi la question, et je crois que la question est... Je reviendrai demain là-dessus, mais enfin, il est bon d'avoir donné quand même une idée. Je vous montrerai demain que la ligne que je fais ici, c'est une ligne sacramentelle. Je l'ai dit, je l'ai noté pour la première section. C'est la ligne du sacrement. Il nous faut dire un mot en terminant au sujet de la question que se posent habituellement les commentateurs de Jean 9. Il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau aussi qui coulait de l'eau. Son sein que le monde est sauvé. La chose n'est pas impossible s'il y a des allusions au baptême chrétien. Mais elle ne nous paraît pas claire. Comme on peut s'en rendre compte à l'examen des principaux indices. L'aveugle ne voit que lorsqu'il se lave avec de l'eau. Cette démarche ne serait-elle pas le symbole du baptême où les chrétiens sont lavés? Cependant, le terme employé alors n'est pas le terme nypto, comme en Jean 9, mais louo ou un dérivé, comme se baigner. L'eau de la piscine est mise en relation avec Jésus. Donc, on est baptisé en Jésus. Hein. On est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans l'intimité trinitaire. Mais celui qui nous a introduit dans l'intimité trinitaire, c'est bien Jésus. Alors ne suggère-t-il pas, de même que c'est par l'intermédiaire de l'eau de Siloé que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, de même c'est dans l'eau du baptême que le baptisé reçoit l'illumination par le ministère de l'envoyé. Jésus étant l'envoyé, le Siloé. L'aveugle a accès à la lumière. Pendant le christianisme des premiers siècles, et déjà à l'époque du Nouveau Testament, le baptême a été désigné comme une illumination. Il faut cependant noter que le verbe photizein, utilisé alors, ne se trouve en Jean qu'au chapitre 1er. Dans le prologue, et qui ne possède pas de connotation d'ordre baptismal. Le récit insiste sur le fait que l'homme est né aveugle. N'y aurait-il pas là une évocation de la condition pécheresse, qui est celle de toute personne, hein, qui doit être levée par son baptême? Alors il pose la question, est-il bien indiqué de discerner cette symbolique dans un récit qui dit ceci expressément péché, c'est cité. Il faut faire attention, pour être prudent. Le seul péché qui soit retenu est celui des pharisiens, c'est-à-dire de ne pas croire. L'aveugle guéri est jeté dehors. Le baptisé, de même, n'est-il pas exclu du judaïsme? C'est pour ça que j'ai mis une porte. Ah, il est mis la porte carrée, et il est mis à la porte de la synagogue, il est excommunié, mais il trouve une autre porte. Une fois qu'il a reconnu Jésus, on nous parle justement de porte. Il sort et il entre. C'est intéressant de voir. Il est mis, on ne dit pas le terme de mettre à la porte, on dit qu'il est exclu.
Carrément.
Il est exclu. Carrément de la synagogue.
Mais la porte est carrée.
L'aveugle est jeté dehors. Mais l'aveugle n'est pas rejeté à cause de sa guérison. mais à cause de sa foi au Christ, qui, elle, ne se situe sûrement pas au niveau symbolique. Puis alors, il se pose la question, mais la confession de la foi de l'aveugle n'est-il pas une confession baptismale? On rencontre de semblables confessions de foi dans d'autres récits qui n'ont aucune portée baptismale. Pourquoi se pose-t-il la question? Mais il se pose la question parce que Oscar Kuhlmann, qui est un grand exégète protestant, a écrit un livre sur la sacramentalité dans l'évangile de Jean. Et il veut voir, ou il trouve en tout cas, dans la majorité des textes de saint Jean, le rappel d'un sacrement, quel qu'il soit. Et ici, par exemple, il s'étend longuement sur la signification symbolique du baptême, qui est un passage des ténèbres à la lumière. Alors, il faut être très attentif quand on fait des applications de ce type-là. C'est vrai qu'on peut le faire, on peut certainement le faire dans un rituel de baptême, hein, et prendre, par exemple, la communion. Je l'ai déjà pris. Mais il faut bien voir que ce n'est pas le sens premier du texte. Le sens premier du texte, c'est la confession de foi. Et c'est cette confession de foi qui nous illumine, d'une part, et qui nous ressuscite, d'autre part. Je vais revenir ensuite sur la résurrection, je termine. Puis alors, il parle aussi de la salive sur les yeux. D'ailleurs, c'est ce fait, hein, de la salive, qui a été utilisée, mais aussi le Ephata, dans l'évangile de Marc, qui a été utilisé dans le rituel du baptême. Puis le dialogue entre Jésus et l'aveugle, qui rappelle de très près, dit-il, les questions et réponses de l'ancien rituel baptismal. Il se rapproche en particulier de celui que l'on trouve dans le texte du chapitre 8e des Actes, là où Jacques baptise l'eunuque. Philippe qui baptise le nuque de la reine Candace de Libye. D'une part, alors ce dialogue n'est attesté que dans la variante occidentale, le dialogue. D'autre part, Jésus n'est pas confessé comme fils de Dieu, mais comme fils de l'homme. Expression absente des formulaires de foi. Ces divers indices de critique interne ne semblent donc pas permettre de tirer les conclusions fermes. Les indices de critique externe qu'on peut y ajouter, utilisation liturgique de Jean d'un au 1er siècle, représentation iconographique, baptismale, hein, témoignage patristique, peuvent nous renseigner sur sa compréhension qu'on a pu avoir et l'exploitation qu'on en a pu faire ultérieurement du texte, mais pas nécessairement sur le sens primitif du récit lui-même. Si je vous note ceci, je fais de temps en temps quelques mises au point de ce livre, c'est pour vous marquer la différence entre deux choses. Le sens matériel et spirituel du texte et le sens qu'on appelle accommodatis ou accommodé. Ce que fait saint Jean, c'est d'utiliser le sens matériel et spirituel du texte. C'est-à-dire que d'un fait historique ou d'un fait matériel, il tire une dimension spirituelle. Ça, c'est exactement la manière dont les Juifs font les exégèses, c'est le Midrash. Le Midrash tire la substance spirituelle d'un texte, en se demandant comment le texte fonctionne. La différence avec le Midrash hébraïque, c'est que le Midrash hébraïque ne se soucie pas de la vérité historique ou de l'enracinement historique du texte. Ce qui se passe dans le texte. Mais il n'y a pas de référence essentielle ou nécessaire entre le texte et la réalité. Réalité historique, comme nous disons. Tandis que dans l'Évangile, ce qui se passe dans la réalité dont le texte est l'écho. Et donc il y a une référence avec la vérité. Et quand vous voyez la vérité historique, et quand vous voyez qu'un terme comme fils de l'homme est mis en évidence, c'est précisément ce que ce terme veut dire. Le terme fils de l'homme n'a pas l'ambiguïté de fils de Dieu. Fils de Dieu peut être pris au sens métaphorique, fils de l'homme, oui, dans la vision de Daniel. Non, quand ce fils de l'homme a une stature et un visage humain. Et je crois qu'il a raison, je crois. Alors ça, c'est l'exégèse du texte. Maintenant, il y a la tradition du texte. Et que, il fait bien la distinction. L'exégèse du texte, donc, c'est tirer en même temps le sens matériel et le sens spirituel en voyant qu'ils sont référés à une histoire d'un homme particulier qui est Jésus, qui est en même temps fils de Dieu. Tandis que le sens accommodé ou accommodatif est beaucoup moins net, beaucoup moins précis. Il ne reprend pas les mots, la matérialité du texte, c'est pourquoi j'ai lié matière et esprit tout à l'heure, il ne reprend pas les mots, il ne reprend pas la matérialité du texte, mais il utilise la thématique. Et cette thématique qu'il l'a fait jouer. Notez que le texte de l'écriture de saint Jean fait déjà cela. Puisque, quand je vous ai parlé du bon pasteur, j'ai pris le texte de Jérémie 23 et le texte de Ézéchiel 34. Lisant une première fois le texte de Jean, puis passant au prophète, et puis revenant au texte de Jean. Ça, c'est l'utilisation d'une thématique. C'est une reprise d'un texte qui fonctionne à travers une tradition. Donc la thématique existe et elle a son sens. Il ne faut pas la rejeter. Mais elle n'a pas la précision des mots. Et un texte qui reprend un certain nombre de mots est plus sûr, plus proche du sens profond du texte que celui qui reprend seulement des images, qui fait jouer les images dans une thématique. Ça ne veut pas dire que c'est exclu.